France Inter.
Aujourd'hui, on va faire sensible les petites oubliées du printemps 87. 9 mai 1987, à l'est de Paris, Virginie, 10 ans, disparaît alors qu'elle rejoint des amis pour jouer dans son quartier. Le 30 mai, au sud de la capitale, Emma, 11 ans, disparaît après être acheté une équerre à la papeterie de son quartier. Le 3 juin, à l'est de Paris, Perrine, 7 ans, disparaît sur le chemin de son cours de poterie. Le 27 juin, au sud de Paris, Sabine, 9 ans, disparaît après être acheté un tube de peinture. Sauf qu'on ne disparaît pas quand on a 7, 9 ou 10 ans, non. Ces quatre fillettes ont toutes été enlevées. Leurs corps ont été retrouvés entre quelques heures et quelques semaines après leur enlèvement. Alors, les médias se mobilisent, la police intervient rapidement et met en œuvre des moyens conséquents. Mais aucun suspect sérieux n'est identifié. Les années passent, puis les décennies, mais les données de l'équation restent les mêmes. 2 mois, 50 km², 4 petites filles, 4 corps et toujours pas de coupable. Notre invité aujourd'hui, Thierry Lévesque, journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires. Il est notamment l'auteur du Continent des oubliés, le cold case des fillettes martyrs de 1987, publié aux éditions Darkside en janvier dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct à Lyon. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
En 1887, le peintre français Auguste Renoir, alors au sommet de sa gloire, reçoit une commande privée de la part d'Eugène Manet. Le frère du peintre souhaite en effet que Renoir réalise le portrait de sa fille Julie. Sur le tableau, on la voit assise sur un canapé, dans une robe blanche, un chaton lové sur ses genoux. Son visage est doux, plutôt rond, barré par une frange placée sur le côté et des mèches de cheveux qui tombent derrière ses oreilles. Elle a les yeux un peu en amande. Elle esquisse un très léger sourire qui accentue, semble-t-il, ses pommettes. Bien. Mais quel est le lien entre Renoir, Julie Manet et l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? Eh bien, en 1887, quand elle pose pour l'impressionniste, Julie Manet a 9 ans. Et c'est exactement l'âge de Sabine Dumont quand, un siècle plus tard exactement, donc en 1987, elle s'assoit à la table de la cuisine dans l'idée de reproduire un tableau de Renoir. « Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous », disait Éluard, s'il le dit. Nous sommes le 27 juin 1987 exactement, quand Sabine installe ses couleurs sur la table. Ses pommettes hautes, sa frange de côté, ses cheveux glissés derrière ses oreilles lui donnent un air décidé. Il se trouve que la fillette aime peindre, depuis toujours. Et le peintre qu'elle préfère, c'est Renoir. Étonnant, non ? Aimer follement Renoir à 9 ans. Mais c'est ainsi. Et Sabine veut offrir un tableau à sa sœur qui vient d'accoucher. Elle a choisi de reproduire la fameuse danse à la ville de l'impressionniste. Pas le plus simple. On y voit un couple qui danse, très élégant. La femme porte une belle robe blanche à froufrou. C'est peut-être ça qui plaît à Sabine, cette allure, ce raffinement. Toujours est-il qu'alors qu'elle installe ses petits tubes de gouache sur la table de la cuisine familiale, la fillette réalise qu'il lui en manque un, le tube de blanc. Bon, elle aurait pu faire sans bleu, sans vert, mais le blanc, non, indispensable. Alors elle demande à sa mère l'autorisation d'aller en racheter au petit magasin du centre-ville, à 700 mètres de là. On ne la reverra jamais. Geneviève, sa mère, ne le sait pas encore.
Sabine venait d'être tata pour la deuxième fois. Elle était folle de joie à l'idée de ce nouveau bébé dans la famille. Elle a été très bien travaillée à l'école ce dernier mois. Elle était fière comme toute son année scolaire. Elle était très très heureuse. Elle était très passionnée par ses peintures.
Mais jamais elle n'a manifesté la moindre envie de faire une petite escapade ou...
Non, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était très posée, calme, elle était raisonnable, elle était gaie, enjouée. Elle jouait à la maison plutôt qu'aller jouer dehors, vous voyez, elle jouait avec ses Barbies. Mais elle n'avait pas l'habitude d'aller seule faire les courses. Elle y allait une fois de temps en temps. Elle n'allait jamais chercher à acheter le pain régulièrement, par exemple.
L'école s'arrête mardi. Vous deviez partir en vacances ?
Oui, nous devions partir le dimanche d'après chez son arrière-grand-père à Saint-Nazaire. En vacances, mon mari, Sabine et moi.
C'était la première fois que les parents de Sabine laissaient leur fille sortir sans surveillance. Grâce à plusieurs témoignages, on peut retracer son itinéraire après qu'elle a acheté sa peinture. Quand elle sort du magasin, la météo a changé, il pleut. Alors quand une voisine en voiture croise Sabine sur le chemin, lui propose de monter avec elle. Mais la petite a bien appris sa leçon. On ne doit pas suivre un adulte, même si on le connaît. Et puis elle n'est plus très loin de la maison. Elle passe devant l'auberge du Val-de-Lièvre. On la reconnaît. Il est 17h30. À cet instant, elle est à moins de 100 mètres de chez elle. Ne la voyant pas rentrer, ses parents préviennent les gendarmes qui prennent l'alerte au sérieux. Au regard de l'âge de la fillette et des conditions entourant sa disparition, la piste de la fugue est vite écartée. On envoie des enquêteurs sillonner le quartier avec des chiens pisteurs. Ils perdent la trace de Sabine au niveau de l'auberge. On organise des battues, on fouille l'étang. Rien. Finalement, c'est un hélicoptère qui va repérer un tas d'habits sur le côté de la Nationale 118 qui relie Sèvres aux Ulysses. À quelques centaines de mètres d'une basket blanche, de son blouson bleu ciel et de son jean, le corps de Sabine. À côté de ce corps, à moitié déposé en contrebas du talus, les enquêteurs trouvent une cordelette et un bidon de White Spirit. Sabine a été étranglée. Après sa mort, l'agresseur a mis le feu au cadavre. Le corps de Sabine est en partie brûlé. Nous sommes le 28 juin 1987. Il est environ 16 heures. En 2024, le frère et la sœur de Sabine témoignent dans l'émission Affaires Sensibles pour France 2.
Voilà, on l'avait retrouvée, déjà. Parce que c'est ne pas la retrouver, jamais retrouver son... un enfant qui est parti dans des conditions comme ça, c'est difficilement vivable.
Le monde s'effondre une deuxième fois. Mais la première fois, c'était quand on a compris qu'elle, enfin, en tout cas moi, quand j'ai compris qu'elle avait disparu et qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, ça finit de s'effondrer quand on la retrouve et qu'on sait que c'est terminé déjà.
Ce que Eric et Gaël Dumont ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à voir leur monde s'effondrer. L'abysse de tristesse et de solitude dans lequel cette famille vient de tomber, cet abysse en a englouti d'autres des familles. 3 exactement sur les 7 dernières semaines, oui, 3 familles à moins de 50 km à la ronde qui ont elles aussi basculé dans l'horreur. Elles ne se connaissent pas et pourtant elles vont être liées pour toujours, voisines dans leur désespoir. La mort de Sabine, c'est le 4e chapitre d'une histoire criminelle qui s'ouvre en réalité en mai 1987, le 9 exactement. Nous sommes maintenant à Neuilly-sur-Marne, commune de Seine-Saint-Denis, à 20 km à l'est de Paris. La famille Delmas vit dans l'un des HLM de la cité des Fauvettes. Jacques et François Delmas ont une fille, Virginie. Elle a 10 ans, les yeux bleus, des cheveux bruns et une multitude de taches et de rousseurs qui égayent son visage en forme de cœur. Et Virginie, sa passion, c'est le judo. Ce samedi 9 mai après-midi, elle a l'intention de le passer à regarder des combats retransmis à la télé. Enfin, ça, c'était le programme de départ. Parce que la compétition est annulée, donc plus rien à regarder. La petite demande alors à rejoindre des amis en bas de l'immeuble, sur l'esplanade. Bon, les parents acceptent, mais une heure, hein, pas plus, max. À ce moment précis, la mère de Virginie n'est pas inquiète. Elle le confirme ici.
On savait où elle allait, puisqu'elle allait rejoindre ses copines. Donc ses copines, c'était les filles de nos voisins. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissée sortir. En plus, il faisait beau. Donc automatiquement, il y avait toujours des enfants à jouer dehors, il n'y avait rien à craindre.
Virginie ne remontera pas chez ses parents. À 18h30, la police est prévenue. Les recherches sont lancées dans la foulée. Tout le monde se mobilise, on fouille le quartier. Les heures passent et les recherches ne donnent rien. Personne n'a rien vu, rien entendu. Mais les parents ne perdent pas espoir, d'autant que les médias s'intéressent à leur fille. On parle de la disparition de Virginie sur la chaîne locale. Alors c'est sûr, ils vont la retrouver. Elle est forcément quelque part. Dans le quartier, tout le monde reste optimiste. Allez, quelqu'un va bien se souvenir de quelque chose. Et sous peu, le téléphone des parents va sonner. Et là, eh bien, on va leur dire que tout va bien, que ce n'était qu'un malentendu, que Virginie arrive. Mais sauf que les jours passent, puis les semaines, et aucune trace de Virginie. La tension monte d'un cran quand, le 30 mai 1987, une autre petite fille disparaît. Elle s'appelle Emma. Emma Gredary. Elle a 10 ans. Emma vit avec ses parents à Malakoff, une commune des Hauts-de-Seine, à quelques kilomètres au sud de Paris. C'est samedi, il y a du monde dans le quartier. On inaugure le stade Marcel Cerdan. Emma, elle, fait ses devoirs quand elle se rend compte qu'il lui manque son équerre. Alors elle demande 10 francs à son père pour aller en acheter une autre, dans une papeterie à quelques centaines de mètres de là, pas plus. Il est 15h15 quand elle sort de l'appartement. Moins d'une heure plus tard, on retrouve son corps à moitié calciné.
Les deux sœurs sortaient rarement l'une sans l'autre. Pourtant, samedi après-midi, Emma, la plus jeune de ces deux petites Mauriciennes, est partie seule de chez ses parents. Elle sortait pour s'acheter simplement une équerre. À la papeterie, située à une centaine de mètres de son domicile, on se souvient d'elle, une petite fille réservée, très polie et plutôt effarouchée.
Elle était seule, elle est venue toute seule. C'est une petite fille qui venait souvent avec sa sœur, mais c'est une petite fille qui vraiment... On ne la remarque pas, ni exubérante, ni une fille désinvolte, ni une fille qui se laisse traîner par qui que ce soit.
En sortant de la papeterie, impossible encore de dire où elle est allée, ce qu'elle a fait et qui elle a rencontré. À 50 mètres de là, au stade, avait lieu la kermesse annuelle. Il y avait donc beaucoup de monde, des gens du quartier, mais aussi des visiteurs. Tout s'est passé très vite, puisque le corps de la fillette a été retrouvé trois quarts d'heure après son passage à la papeterie. Il gisait là, dans ce parking, à 2 kilomètres au moins de chez elle. L'enfant avait été étranglé avant d'être immolé par le feu.
Avant de mourir, Emma, 10 ans, a été violée par son meurtrier. Un bidon de styrène, un liquide inflammable, a été retrouvé à côté du corps. Sous les ongles de la fillette, des traces de sang qui n'est pas le sien. C'est qu'elle s'est défendue, Emma. Mais en vain, évidemment, que faire face à un agresseur adulte? Et comme pour Virginie Delmas, 3 semaines plus tôt, personne n'a rien vu, rien entendu.
La disparition de Virginie Delmas et le meurtre de la petite Mauricienne, deux affaires dramatiques en banlieue parisienne à 3 semaines d'intervalle que les policiers rapprochent. Il semble en effet que ces disparitions sans témoins comportent des similitudes. Les explications de Martine Leck.
Tout d'abord, les victimes elles-mêmes, deux fillettes du même âge, Virginie a 10 ans, Emma en a 11. Le lieu de la disparition, une cité de banlieue. La date, un samedi après-midi, à peu près à la même heure. Dans les deux cas, pas de témoins, le ravisseur est resté dans l'ombre. Pour Virginie, les enquêteurs ont entendu plus de 2000 personnes, sans résultat. Devant ce vide et face à ces coïncidences troublantes, les policiers envisagent sérieusement l'hypothèse d'un seul et même maniaque.
Le troisième chapitre meurtrier de ce printemps 87 s'ouvre quelques jours plus tard, 4 exactement, quand Perrine Vigneron, 7 ans, est enlevée. Perrine a une grande sœur et une petite. La famille Vigneron vit à Bouleur, un village de Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Perrine est en CP, elle se débrouille bien à l'école. D'ailleurs, avec ses grandes lunettes rondes sur son petit visage, elle a effectivement une tête de première de la classe. Mais ce qu'elle aime faire, quand elle ne fait pas ses devoirs, c'est de la poterie. Et ce mercredi 3 juin 87, comme tous les mercredis, elle part de chez elle pour se rendre à son cours. Elle y va à pied. Il commence à pleuvoir, c'est vrai, mais l'atelier est à peine à quelques centaines de mètres de là, ça ira. Il est 16 heures quand elle se met en route. L'orage éclate et Perrine n'arrivera jamais à son cours de poterie. Comme pour Virginie, comme pour Emma, les parents de Perrine préviennent immédiatement la police. Comme pour Virginie, comme pour Emma, leurs inquiétudes sont prises au sérieux, immédiatement. Comme pour Virginie, comme pour Emma, personne n'a rien vu, rien entendu, aucune piste, ou presque.
4 jours déjà, la petite Perrine est toujours introuvable. Elle n'est pas revenue au domicile de ses parents à Bouleur, en Seine-et-Marne. Et à mesure que les jours passent, on se demande si cet enfant de 7 ans n'a pas été enlevé comme une autre petite fille de la région il y a quelque temps. Et depuis 4 jours, donc, les gendarmes n'ont pas cessé leurs recherches. Renaud Fessaguet.
Un escadron entier de la gendarmerie mobile, des pompiers, la Croix-Rouge, des habitants de la région, des amis, des parents sont venus les aider hier dans cette mission, fouillant les bois et sondant les mares. En vain. Alors, où est passée Perrine? Est-elle cachée dans un coin, effrayée par l'orage de l'autre jour, comme veulent le croire les gendarmes? Blessée et immobilisée dans un fossé? Ou a-t-elle été fauchée par une voiture roulant sur l'autoroute de l'Est, tout proche? À moins que ce ne soit un enlèvement, comme on le redoute à Bouleur. Une hypothèse d'autant plus inquiétante qu'il y a un mois, à 30 km de là, une autre petite fille de 10 ans a également disparu dans des circonstances analogues. Pour le moment, les enquêteurs refusent de lier les deux affaires, mais si le silence de Perrine et de Virginie persistait, il faudrait bien finir par prendre cette hypothèse au sérieux.
On retrouve le corps de Perrine environ 3 semaines plus tard, le 27 juin. Elle est nue, au bord d'un champ de colza à 30 km de son domicile. Le 27 juin, c'est aussi le jour de la disparition de la petite Sabine, souvenez-vous, celle qui aimait Renoir, celle qui a disparu après être allée chercher son tube de peinture blanche, celle qu'on a retrouvée le lendemain après-midi au bord de la Nationale 118. Comme Sabine et Emma avant elle, Perrine a été étranglée. A priori, avec la cordelette que les enquêteurs retrouvent près d'elle. Ses habits ont été pliés, posés à côté du corps. Mais parce que l'état de décomposition est avancé, bien plus que pour Sabine ou Emma, dont les cadavres ont été retrouvés dans les 24 heures suivant leur disparition, il est impossible de déterminer la date exacte du décès de Perrine. On ne peut pas non plus savoir si elle a été violée. On ne sait pas grand-chose, en vérité. Au soir du dimanche 28 juin 1987, on a donc 4 fillettes enlevées et 3 corps retrouvés. Le tout en moins de 2 mois, sur un territoire de 50 km². Et au soir du dimanche 28 juin, aucun suspect sérieux pour aucune des 4 affaires. Mais le monde continue de tourner. Oh, pas pour les familles, non, évidemment. Pour elles, tout s'est arrêté. Le temps ne défile plus de la même façon. Parce qu'il ne défile plus vraiment. Les familles sont coincées dans une autre réalité. Et pour les autres, pour les vivants, pour les enquêteurs, les saisons se succèdent sans apporter plus de réponses. Après le printemps et sa vague meurtrière, l'été se déroule dans un inquiétant silence. Et c'est l'automne qui vient clore le premier chapitre de cette histoire, celle des petites disparues de 1987. Parce que le mois d'octobre offre un corps. Celui qui manquait, celui de la première disparue. 5 mois après sa disparition, on retrouve enfin les restes de Virginie, son visage en forme de cœur et ses taches de rousseur.
5 mois après sa disparition, le corps de Virginie Delmas, une petite fille de 10 ans, a été retrouvé hier dans un verger au pied d'un arbre, en Seine-et-Marne, à Mareuil-les-Maux. Sur place, Dominique Delaroy.
Si l'identification formelle du corps a pu être faite rapidement, grâce notamment aux restes de vêtements retrouvés sur place, et surtout grâce à un bracelet que portait la fillette, l'enquête sur les causes de sa mort pourrait être moins aisée. Le juge d'instruction de Bobigny, chargé du dossier, a ordonné dès hier une autopsie. Mais l'état du corps, qui séjournait là sans doute depuis 5 mois, dans ce verger à l'abandon, noyé dans les broussailles, ne va pas faciliter la tâche des enquêteurs. Depuis hier après-midi, la PJ de Seine-Saint-Denis est sur place, à la recherche du moindre indice. Les habitants du voisinage sont interrogés, mais là encore, après 5 mois, les recherches s'avèrent difficiles. L'enquête démarre, et pour l'instant, donc, aucune hypothèse n'est écartée. Cependant, ici, tout le monde a en mémoire l'affaire de 3 autres fillettes du même âge, de la même région, disparues à la même époque et retrouvées assassinées dans des circonstances semblables. I walk in a line. I see where I'm going. I turn inside out. The days that
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les petites oubliées du printemps 87.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En anglais, pour parler d'affaires classées non élucidées, on parle de cold case. Littéralement, affaires froides. Il y a quelque chose de terrible dans cette expression. Une affaire est chaude immédiatement après le crime. C'est comme pour les journalistes, on parle d'actualité chaude, par exemple. Les journaux que vous lisez ou que vous entendez à la radio sont principalement, voire exclusivement, composés d'actualités chaudes. Et ce sont elles qui intéressent, qui mobilisent. Et pour les crimes, plus le temps passe, plus elles refroidissent, moins elles intéressent, moins elles mobilisent. Et en cette fin d'année 87, c'est ce que sont en train de devenir Virginie, Emma, Perrine et Sabine, des affaires froides. En tout cas, voilà ce qu'on sait sur ces quatre dossiers. Les quatre fillettes sont toutes enlevées à proximité de chez elles, entre l'Est et le Sud parisien, alors qu'elles étaient seules dans la rue. Personne n'a rien vu, rien entendu. Aucun témoin, ou presque. Les fillettes ont été retrouvées nues, après avoir été étranglées. Les corps de Virginie et de Perrine au bord d'un champ et d'un verger, avec leurs habits soigneusement pliés à côté, contrairement à Emma et Sabine, dont les corps sont découverts dans les 24 heures après leur disparition. On met longtemps à récupérer ceux de Virginie et de Perrine. Les enquêteurs glanent donc davantage d'indices sur les corps d'Emma et de Sabine, dont des traces de sperme, prouvant notamment des viols. Les corps de ces dernières ont par ailleurs été incendiés et des bidons de liquide inflammables ont été retrouvés sur les lieux du crime. Pour Emma et Sabine, une camionnette blanche a été signalée aux alentours des lieux d'enlèvement. Pour Virginie et Perrine, c'est une voiture blanche, peut-être une BMW qui aurait été aperçue quand les fillettes ont disparu. Voilà. Telles sont dans les grandes lignes les informations dont disposent les enquêteurs à la fin de l'année 1987. C'est peu. Mais le fait est que, à l'époque, les moyens dont dispose la police sont limités. Gilles Leclerc, chef de la division criminelle du SRPJ de Versailles, s'en explique.
À l'époque, pas de vidéo, pas de téléphonie, puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable, et pas d'ADN. Ça limite, hein. On était obligé de trouver des témoins pour pouvoir avancer, pour avoir une piste. On bat le pavé et on essaye de trouver. On se met en situation, on fait un barrage sur les secteurs, on arrête toutes les voitures pour savoir si elles n'ont pas vu tel jour à telle heure quelqu'un, et on essaye, voilà.
Les outils des enquêteurs ne sont clairement pas les mêmes à la fin des années 80 que ceux d'aujourd'hui. Alors un portrait robot finit par être dressé après le croisement de quelques potentiels témoignages suite au meurtre de Sabine, la dernière des quatre fillettes enlevées. Nous sommes maintenant en mars 88 et la presse relaie la photo et la description du suspect potentiel. Le visage fin, long, les traits anguleux, des lunettes pantaux carrées, de vue, menton ronde, de soleil. On précise que le suspect fumerait des Philip Morris et roulerait en BMW blanche. Tout cela est un peu fou. Si elle suscite beaucoup d'espoir chez les familles, cette piste ne donne rien. En réalité, au début des années 80, des pistes, il n'y en a pas. Et au-delà des moyens d'investigation limités, le fait est que les enquêteurs français ont du mal à appréhender ces quatre affaires comme pouvant potentiellement n'en faire qu'une. Autrement dit, comme pouvant être l'œuvre d'un seul criminel. C'est que les serial killers, à l'époque, on n'y croit pas trop en France. Certes, il existe certaines distinctions, des différences dans ces quatre affaires, comme le fait que le corps de certaines ait été incendié post-mortem, par exemple. Mais les similitudes semblent évidentes, comme l'âge, le profil des victimes, la proximité géographique et temporelle des enlèvements, le fait que les petites filles ont toutes été étranglées. Donc les dossiers auraient pu être traités ensemble, mais non. Ce qui est arrivé à Virginie, Emma, Perrine et Sabine n'est pas traité comme un tout, mais bien comme quatre affaires judiciairement indépendantes. Jean-Michel Ayat, ancien juge d'instruction sur le dossier d'Emma, s'explique.
À l'époque, il n'y avait pas d'éléments fondamentaux permettant de regrouper ces affaires parce qu'on imaginait qu'il n'y avait que un seul et même auteur. La thèse du tueur en série, c'est pas du tout quelque chose qui est dans les esprits à l'époque, et en tout cas c'est peu évoqué.
Bien que ces quatre meurtres se soient produits en même temps dans la même zone géographique, ils relèvent donc de quatre équipes d'enquête différentes, de quatre juges d'instruction différents, rattachés à quatre tribunaux différents ayant des ressorts différents. La Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, les Saône et la Seine-et-Marne. Non seulement les efforts ne sont pas mutualisés, mais les informations ne circulent pas entre les juridictions qui parfois explorent les mêmes pistes. Chacun travaille dans son coin, au préjudice des enquêtes et aux grandes dames des familles. Car les années passent et les enquêtes piétinent. Oh, il y a des pistes, mais qui sont toutes éliminées au fur et à mesure. Et au bout du compte, aucun suspect, rien ne tient. Alors mettons-nous quelques instants à la place des familles. C'est facile à dire, les années passent, les enquêtes piétinent. Mais à quoi ressemble la réalité de ces quelques mots recouvrent ? Une fois le crime découvert, la déflagration passée, que se passe-t-il quand il ne se passe plus rien ? Quand la justice, forcée par le temps, est prise par de nouveaux drames, dans de nouvelles vies, passe à autre chose, d'autres crimes, sans avoir apporté de réponse, comment imaginer le degré de solitude, l'étendue du désespoir des familles ? Surtout qu'elles ne sont jamais tenues au courant de rien. Si vous n'avez pas d'avocat, qu'on ne vous dit pas qu'il faut vous constituer partie civile pour avoir accès au dossier, l'institution judiciaire, estimant rien, vous devoir quelque chose. Et vous vous retrouvez encore plus seul dans votre abîme. C'est bien ce qui s'est passé pour les familles de Virginie, Emma, Perrine et Sabine. Et puis la justice, comme la nature, a horreur du vide. Une affaire, ça se résout ou ça se classe, surtout à l'époque. Didier Seban, sur RTL, le confirme pour l'émission L'heure des crimes.
Oui, ça fait partie des statistiques. Il faut 2-3 ans pour qu'un dossier soit fermé. On a vu des dossiers de disparition d'enfants qui sont fermés au bout de 3 ans. Et il faut faire du chiffre dans les cabinets d'instruction déjà à l'époque. Et donc on ferme les dossiers très vite. C'est comme ça. Et puis par exemple, typiquement dans les quatre affaires dont nous parlons aujourd'hui, il y en a une en Seine-Saint-Denis, l'autre en Haute-Seine, la troisième en Seine-et-Marne, la quatrième dans l'Essonne. Ça fait quatre tribunaux différents saisis qui ne se parlent pas et qui n'échangent pas.
Il y a un enjeu statistique et donc politique à classer des affaires. Et plus votre affaire se refroidit, plus elle se rapproche de ce classement. Ainsi, le parquet de Nanterre rend une ordonnance de non-lieu pour le meurtre d'Emma en 1996. L'année suivante, le juge d'instruction de Bobigny décide la même chose pour le meurtre de Virginie. Motif, défaut d'élucidation. Autrement dit, les investigations n'ont pas permis d'identifier de suspects. Fermement. C'est rare, les homicides sur mineurs de moins de 15 ans. En France, selon les ministères de la Justice, on en compte quelques dizaines par an. Alors imaginez, 4 meurtres d'affilée, de gamines de même pas 10 ans, c'est presque du jamais vu. Et pourtant, 2 affaires sur 4 sont classées moins de 10 ans après les faits. La justice a la mémoire courte parfois. D'autant qu'à chaque non-lieu, on détruit les scellés. Ainsi, tout ce qui a été récupéré sur les scènes de crime, les cordelettes, les vêtements, tout est détruit dans la foulée. Et si on ne prononce pas de non-lieu pour le dossier de Périne Vigneron, les scellés de cette enquête sont détruits quand même. Ouais, c'est possible en droit français. C'est juste une question de gestion des stocks. Les familles découvriront d'ailleurs sur le tard ces destructions dont personne ne les a informées. Sur le dossier de Sabine Dumont, la dernière à avoir été tuée, il reste ouvert celui-là, il seul, vivant, comme on dit dans le jargon. Pourtant, dès la fin des années 80, une innovation technologique majeure avait généré un espoir fou auprès des familles.
Un homme de 32 ans, Robert Melias, a été condamné pour viol à 8 ans de prison à Bristol, en Angleterre. C'est la première fois qu'un suspect est identifié grâce à ses empreintes génétiques. L'inculpé a plaidé coupable. La technique des empreintes génétiques a été inventée en 1983. Elle permet l'identification, avec risque d'erreur minime, 1 sur 25 millions, de tout individu suspect. Est-ce réellement une méthode infaillible? C'est la question que Dominique Delaroy a posée ce matin à Michèle Rudler, directrice du laboratoire de police scientifique à Paris.
C'est effectivement un grand progrès en criminalistique.
Alors en France, où est-ce qu'on en est exactement?
Nous avons établi un programme de recherche. Nous sommes en cours de recherche, mais évidemment, nos équipes sont beaucoup plus limitées que celles des Anglais ou des Américains. Mais nous avons bon espoir d'être à la hauteur, si j'ose dire.
En France, il faut attendre 1998 pour que soit créé le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui permet alors aux enquêteurs de comparer des ADN. Mais seuls les scellés concernant le meurtre de Sabine sont encore conservés. Il n'y a donc de recherche ADN possible que sur ses vêtements, où des traces de sperme et donc d'identité génétique avaient été retrouvées, rappelons-le. Et bien jusqu'à aujourd'hui, aucune concordance n'a été établie. Reste donc un dernier espoir pour les familles, le pôle des crimes sériels ou non élucidés du parquet de Nanterre, ou pôle Cold Case. Lancé en 2022 parce que, selon les mots du garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, le temps qui passe est le pire ennemi de l'élucidation d'une affaire, eh bien ce pôle a rouvert une centaine de dossiers classés, et parmi eux, ceux de Virginie, d'Emma, de Périne et de Sabine. Comme le disait Renoir, au début quand je peins, je vois le motif comme un brouillard. Je sais que tout ce que je verrai plus tard y est, mais ça ne ressort qu'avec le temps. Quelquefois, ce sont les choses importantes qui surgissent les dernières. S'il le dit.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les disparus du printemps 87, notre invité Thierry Lévesque. Bonjour.
Bonjour, Fabrice.
Vous êtes journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires, faits divers. Vous êtes notamment l'auteur du Continent des oubliés, le Cold Case des fillettes martyrs de 1987, livre publié aux éditions Darkside en janvier dernier. Alors, on est parti sur l'hypothèse d'un tueur, finalement, sans avoir beaucoup insisté là-dessus. Et s'il y avait plusieurs tueurs, voire au moins 2.
Alors,
est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous permettre de penser ça?
Le dossier donc repris globalement avec les 4 affaires au pôle de Nanterre, créé donc il y a 3 ans maintenant, tout juste, il est appréhendé effectivement sous l'angle de 2 auteurs plutôt que un seul. Une juge d'instruction a repris le dossier de Sabine Dumont et Emma Grédari. les dossiers de Sabine et Emma, et d'un autre côté, ceux de Virginie et Perrine ont été repris par une deuxième juge. Bon, bien sûr, elles se parlent, celles-ci, parce qu'elles sont au même endroit et elles sont censées travailler ensemble. Mais l'idée est que, effectivement, plusieurs éléments laissent peut-être penser que, fait extraordinaire, dans le fait extraordinaire, il pourrait y avoir deux tueurs de fillettes au même endroit, et plus ou moins au même endroit et au même moment. Mais c'est là-dessus qu'on travaille.
Oui, mais est-ce qu'il y a déjà des éléments qui peuvent faire penser à ça? Ou est-ce que c'est juste une hypothèse comme ça?
C'est une hypothèse qui ne peut pas être vérifiée totalement dans l'absolu, puisqu'on n'a plus qu'un seul ADN sur les quatre dossiers. Mais on est parti là-dessus pour le moment.
Oui, c'est une piste. Quel a été l'impact de ces quatre meurtres sur la société de l'époque? Nous, on a un peu insisté sur les familles, parce que c'était important. Sur les victimes, finalement, aussi. Mais sur la société.
Alors, on a vu dans vos archives sonores que ça, bien sûr, un meurtre d'enfant, de toute manière, à toutes les époques, c'est toujours le meurtre par excellence. Le plus
horrible, c'est la transgression ultime.
Le plus frappant. Là.
Bien sûr.
Donc, il est clair que on en a parlé et il y a eu une sorte de psychose qui s'est instaurée. Mais tout ça, ça se passe en mai-juin. Ensuite, se passe l'été, il n'y a aucune piste. Et puis finalement, on n'en parle plus, médiatiquement et puis judiciairement. Donc finalement, ça s'est un peu évaporé dans cet été 87. Et on ne va pas dire que ça a marqué la société française, comme par exemple l'affaire Grégory, qui aujourd'hui encore résonne dans les Vosges et ailleurs. Donc celle-là, qui est une affaire totalement extraordinaire à mes yeux, puisque quatre meurtres d'enfants, comme vous le disiez...
Sur un petit périmètre.
Voilà, dans un laps de temps très court. Eh bien, finalement, ça n'a pas tant marqué, je trouve. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressé à ces dossiers.
Parlons justement des errements de la justice. Alors, je sais, c'est toujours facile de parler des errements de la justice, mais enfin, il y en a quand même, là. On disait qu'on n'avait pas la culture des serial killers à l'époque en France. On n'y croyait pas, c'était pour les Français plutôt le film américain. Hein.
Tout à fait, alors c'est d'ailleurs l'année 87, et cette année 87, je le rappelle dans le livre, est marquée par une autre affaire sensationnelle, qui sont celles des disparus de Mourmelon, des appelés du contingent disparaissent dans la région de la Marne. Et à l'époque, le ministre de la Défense, Monsieur Giraud, c'est le gouvernement Chirac, nie finalement que ça puisse être un tueur en série. On ne parle même pas de tueur en série. Ce terme de tueur en série, vous l'avez entendu dans vos archives sonores, il n'existe pas à l'époque. On parle de maniaque, de sadique, mais on ne parle pas. Voilà. Et en réalité, on saura bien plus tard que dans la Marne, c'était bien un tueur en série, à savoir l'adjudant Pierre Chanal. Mais tout ça n'apparaîtra que 15, 20 ans plus tard. Bon, eh bien, pour les fillettes, c'est un peu pareil. On parle d'un sadique, d'un maniaque. Deux par deux, d'ailleurs, on le voit aussi dans vos archives sonore, même médiatiquement, l'ensemble de l'affaire n'est pas appréhendé, parce que il y a cette fragmentation, même journalistique. Bon, allez. Et puis, il y a un autre problème qui, moi, m'intéresse, parce qu'il est toujours contemporain, c'est cette organisation territoriale de la police et de la justice, qui remonte en réalité au 19e siècle, avec des tribunaux par département, pas de spécialisation des enquêteurs, c'est-à-dire que la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, de Nanterre, travaille sur ça, mais sur tout le reste, les cambriolages, les violences, les viols, etc. Donc si on n'a pas trouvé tout de suite, eh bien, ça passe à l'as. De la même manière, dans les cabinets des juges d'instruction, ben, on a cette affaire-là, mais à l'époque, 80, 90, 120 dossiers à conduire en parallèle, où il y a des détenus, où là, on a des pistes à traiter, etc. Donc ce problème structurel, il est énorme à l'époque. Mais il existe toujours aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça aussi que ce pôle de Nanterre amorce peut-être quelque chose de nouveau par rapport à ça.
Alors, il y a aussi un autre préjudice moral, celui-là. Les familles qui ne sont pas associées, qui ne sont pas informées, y compris de leur recours pendant l'enquête. Pourquoi? C'est quoi cette inhumanité?
C'est pour ça que j'ai appelé aussi ce livre « Le continent des oubliés », parce que derrière, c'est les familles de ces quatre malheureuses fillettes. Il y a des milliers, en réalité, de familles qui sont dans l'attente, en fait, une sorte d'éther judiciaire. Leur dossier, il est fermé, pas fermé. Des fois, il reste ouvert, mais il ne se passe rien. Et on ne les informe pas, on ne leur dit pas pourquoi on a arrêté. Parce que, bien sûr, c'est un peu embarrassant. C'est le système qui veut ça. Et puis, on est un peu embarrassé, dans le fond, d'être... C'est une sorte de zone grise. Bien sûr, on ne peut pas résoudre tous les crimes commis en France. Ce n'est pas possible. Mais je crois que cette organisation et cette inhumanité qui fait qu'on n'explique pas en réalité aux familles, et en particulier à celles-là, pourquoi on est dans l'impuissance, il y a là un problème systémique sur lequel il y a quelque chose à faire.
Il y a un autre problème systémique, celui des scellés. Est-ce qu'un jour, bon sang, on va se dire, on ne détruit pas des scellés tant qu'on n'a pas trouvé? Est-ce que le Paul Colquès de Nanterre, par exemple, s'intéresse à ça?
Alors, il y a une histoire par rapport à ça. Donc, l'avocat Didier Seban, qui est l'avocat maintenant de la famille Dumont, notamment, a réussi à amener à l'Assemblée nationale le vote d'une disposition législative qui interdit la destruction des scellés criminels, des scellés de crime. Donc, pour l'instant, c'est devenu... C'est résolu, en quelque sorte. Oui. Mais, de ce qu'on sait, il paraîtrait qu'on voudrait revenir sur cette disposition, parce que ce serait ingérable au plan matériel dans les greffes. Donc, bon, espérons qu'on va pas le faire, mais apparemment, des gens en parlent dans les milieux autorisés, comme on dit, dans le ministère.
Vous parliez de Mourmelon tout à l'heure. Dans votre livre, vous parlez aussi de l'affaire des disparus de Lyon.
Oui.
Ah, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien forcément avec l'affaire dont on parle, mais il y a quand même un cousinage, il y a quelque chose qui...
Parce que le livre part de ces affaires de fillettes, mais parle aussi plus largement, finalement, de la saisine. Il y a 117 affaires, maintenant, qui sont traitées au pôle Colquès de Nanterre. Et donc, il y a une des dernières affaires d'Auxerre, dont je parle, l'assassinat d'une femme, Danielle Bernard. Auxerre, alors, c'est bien sûr une sorte d'exemple extrême de ces dysfonctionnements judiciaires, puisqu'il y a eu l'affaire Émile Louis, qui avait tué 7 femmes dans les années 70, et là, il n'y avait même pas eu d'enquête. Donc, c'est même pas un échec, c'est qu'on est passé à côté, complètement, de quelqu'un qui passait son temps à tuer des gens. Et ça n'est apparu que 20 ans plus tard, à cause d'une association. Donc, effectivement, tout ça est en lien. En réalité, ce sujet des Colquès, c'est le sujet de notre organisation criminelle. L'organisation de notre enquête criminelle, les moyens qu'on lui donne, l'importance qu'on lui donne dans le thème de la sécurité. Mmh.
Est-ce que parmi ces dysfonctionnements judiciaires, on a autour finalement d'une même affaire, on peut déboucher sur, c'est peut-être un peu absurde ce que je dis, mais sur 2 procès différents?
Par exemple, Francis Holm, tueur en série des années 80-90, il a été jugé, je crois, 8 fois. ça va pas arriver puisque on a regroupé les affaires, mais bien souvent pour le même tueur en série, on a plusieurs procès. Regardez, Nordal de Landais, par exemple, a été jugé une première fois. Si on trouve d'autres affaires, va falloir le juger une autre. Il a eu 2 procès déjà, une fois pour le caporal Noyer, une fois pour Maëlys Arojo. Donc la notion même de crime sériel n'était pas vraiment dans la loi jusqu'à la création du Paul Colquès, où pour la première fois, finalement, la notion de crime en série est rentrée officiellement dans la législation française, et donc avec cette structure de Nanterre.
Et au-delà, dans la culture française, c'est réglé?
Maintenant, je crois que après les affaires Guy Georges, Patrice Allègre, Mourmelon, etc., je crois qu'on a compris qu'en France, on n'allait pas échapper à ce phénomène qui, de toute façon, a toujours existé. Hein. Faut le savoir, depuis le Moyen-Âge, on ne va pas remonter très loin, mais il y a eu l'affaire Landru, etc. Bon, il y a eu beaucoup de tueurs en série. En fait, on pouvait savoir dès les années 80 que ça existait, mais il y avait une forme de déni, curieusement, parce que nous, on se croyait un peu supérieurs, finalement, à la civilisation américaine, et que chez nous, ça n'existait pas. Bien sûr que si, que ça existe. Il y a des gens qui passent leur vie à tuer d'autres gens, comme par exemple Fourniret, avec sa femme, a passé 17 années de sa vie à tuer des gens. Mmh. Et si on l'avait pas arrêté, il le ferait peut-être encore aujourd'hui. Il serait vieux, mais voilà. Mmh. Donc ça existe. Il y a des gens, ils vont le matin au travail, ils rentrent le soir en famille quelquefois, et de temps en temps, ils tuent quelqu'un. Ça arrive, ça existe, on le sait.
Quelles ont été les réactions des familles face à votre démarche d'écrire le livre?
Alors, ça a été plutôt... J'ai rencontré les familles Delmas et Dumont, qui sont extraordinairement combatives, et parce qu'il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir devant ce malheur qui vous arrive, dont chacun de nous peut bien comprendre que c'est ce qui peut arriver de pire. Vous perdez un enfant et vous ne savez pas quel est l'auteur du crime. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que ça? Bon, donc ces deux familles-là, elles restent combatives, elles ont des avocats, Maître Didier Seban, le cabinet Seban. Et les Dumont se sont promis de ne jamais arrêter jusqu'à ce qu'on trouve. Ils ont même transmis, les frères et sœurs de Sabine, ont transmis l'affaire à leurs propres enfants. et leur ont dit que si un jour ils meurent sans savoir ce qui s'est passé, eh bien ils devront continuer. Mmh. Bon, là j'ai eu au téléphone la sœur de Emma Gredari Shela qui était en nouveau-née au moment de la mort de sa sœur. Elle n'a connu cette histoire criminelle que dans son adolescence tardive, c'est les moins impliqués. Et puis la famille Vigneron a un peu disparu des radars, ne veut plus entendre parler de cette affaire. Donc il y a plusieurs attitudes possibles face à ces catastrophes. Il y en a qui se battent et qui veulent pas que ça sorte de leur vie. Puis il y en a d'autres qui, peut-être pour se dire que la vie doit continuer, eh bien, en font un peu abstraction, en réalité. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, comment chacun réagit comme il peut.
Mais surtout dans ces circonstances.
C'est sûr. Mais la demande de justice, c'est évident que c'est présent chez tous ces gens. Il y a un besoin qu'on leur rende justice, au moins qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour que... Parce que c'est pas quelque chose de socialement admissible, en réalité, que ça reste... qu'on casse ses affaires.
Bien sûr. Sur les cold case, ça me faisait penser à une affaire alors qui a été réglée par le cold case, c'est l'affaire du Grellet. Oui. François Vérove, dites-moi, il aurait pu croiser la scène des crimes dont on a parlé.
Vous faites bien d'en parler parce qu'effectivement, c'est dans les dossiers Vigneron et Delmas une des pistes possibles, puisque François Vérove, alias le tueur au visage grêlé, il était connu comme ça.
Il n'était pas franchement grêlé, hein.
Mais c'était un portrait robot de l'époque. Oui. Mais il a tué une fillette à Paris, dans les mêmes circonstances d'ailleurs, ou des circonstances très voisines, Cécile Bloch, en 86. On sait qu'en 87, il commet beaucoup de viols et un double meurtre dans le Marais aussi d'un mécanicien d'Air France et de sa fille au père. On l'a su bien après, puisqu'il vient d'être identifié il y a 3 ou 4 ans.
Eh oui.
Tout ça, on l'a su là maintenant.
Mmh, bien sûr.
Donc on s'est dit, bien sûr... Un tueur de fillettes en 86, est-ce que il pourrait pas être impliqué dans ça? Eh bien, il apparaît quand même que justement l'affaire Virginie Delmas intervient au milieu de sa série criminelle, hein, le double meurtre du Marais, des viols, des attaques, on le sait, qui sont établis maintenant. On sait aussi que il connaît la région parce qu'il y a habité plus tard dans les années 90, dans la Seine-et-Marne. Et puis surtout, il y a des témoignages dans l'affaire Delmas qui font état d'un motard. On a vu Virginie en fait dans la rue, qui était tenue un homme la tenait par la main, qui avait un blouson de moto. Or, on sait qu'à l'époque, Vérove, alias Le Grellet, est dans le peloton motocycliste de la garde nationale, la garde républicaine, pardon. Mm-hmm. Et donc, ça peut correspondre.
Ouais.
Ça peut correspondre temporellement. Et puis, le signalement qui est donné, un homme d'une vingtaine d'années correspond à son âge à l'époque. Donc c'est une piste possible. Est-ce qu'il peut y avoir 2-3 tueurs de fillettes au même moment? Si Vérove n'est pas impliqué, ce serait quand même extraordinaire que cohabitent plusieurs tueurs, parce que comme vous le disiez, c'est quand même un type de crime heureusement assez rare.
Merci infiniment, merci
c'est
beaucoup
moi qui
Thierry Lévesque. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les petits oubliés du printemps 87, une émission que vous pouvez retrouver en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait l'équipe de Radio France, emmenée par Pascal Bresse, Éric Audra, Christophe Papon, Jérôme Casamayou, Alain Pied, Moussa Badji et Benoît Vivier. Merci à eux, merci au Festival Quai du Polar et à l'équipe de ce théâtre, Comédie Odéon, Julien Poncet, Johan Vigneron, Romain Mercier, Loan Blum et Mélanie Vadet.